partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Aujourd'hui, nous allons parler de Paul Morand et de l'Argentine. Mais avant de vous parler de Paul Morand et de l'Argentine, je vais dire quelques mots sur Paul Morand. Ce personnage de l'Académie française, bien sûr, est quelqu'un souvent que l'on imagine au volant de sa Bugatti, le serre-tête de cuir, bien sûr, sur la tête. On sait que c'est un diplomate écrivain, l'amateur de paquebots, des îles tropicales, des tours de Manhattan, légende de l'Asie, bien entendu. Alors, récemment, plusieurs livres sont sortis, ont été publiés sur Paul Morand. Je pense par exemple à un évadé, Paul Morand, un évadé permanent de Gabriel Jardin, qui est un très beau livre, je vous conseille tout à fait. Je pense aussi à Paul Morand, le sourire du harakiri de Pascal Louvrier et Éric Canalforgue. Et tout cela pour dire que Paul Morand est un grand écrivain français de la génération des années 30 qui, hélas, pour lui, pour nous, s'est un peu fourvoyé ou a été un peu piégé dans le domaine politique. Et au fond, de Paul Morand, seul reste l'écrivain. Et il est avant tout un écrivain. Et nous n'oublions pas les très beaux livres qu'il a publiés, les très beaux essais, les très beaux romans, les très belles nouvelles, qui sont tous ou toutes des beaux papillons exotiques. Je pense à l'Europe galante, je pense à Bouddha vivant, je pense à Rien que la Terre, je pense à Magie noire et je pense à Champion du monde. Et j'ai eu cette chance, si vous voulez, avant de gagner, d'aller en Argentine, de tomber sur un des livres de Paul Morand qui s'appelait justement « Air indien ». Et j'ai été tout à fait captivé par le livre. Et c'est à partir de ce... Enfin, j'ai été inspiré par Air indien. Et en partant en Argentine, j'ai tenu à rendre un hommage personnel à Paul Morand. Alors, j'intitule donc cette communication « Sur les traces de Paul Morand et de l'aréopostale ». Selon Paul Morand, l'Afrique est vouée au feu, l'Asie et l'Europe à la terre, l'Océanie à l'eau, mais l'Amérique a son principe dans l'air, le grand air, un air jeune, franc, sans ombre ni ride, qu'excite l'électricité. Je repense à ces propos d'un des auteurs français parmi les plus libres de ce siècle, le 20e qui s'achève, tandis que l'avion d'Air France m'entraîne en sautillant, parfois vers les Andes, où règne l'oiseau dieu des Incas. Je suis en train de traverser l'Atlantique Sud sur les traces de Jean Mermoz, conquérant d'un espace jusqu'alors inviolé. Tous les héros de l'aréopostale méritent, à travers le temps qui passe, un signe amical, mieux même une véritable ferveur. Installé au cœur des douces vibrations de la carlingue de l'Airbus, soudain, le film de Marcel L'Herbier, L'Argent, et celui de Jean Grémillon, Le ciel est à vous, me reviennent à l'esprit. Sur l'aviation des temps héroïques, il existe des films de qualité et de solides adaptations. Qui se souvient par exemple d'Anne-Marie, un roman de Jean d'Argens, dont le scénario a été écrit par Saint-Exupéry, dans lequel Annabella interprétait le personnage de l'aviatrice, ou de Courrier Sud, autre film, adapté par le réalisateur Pierre Billon, à partir du roman du grand aviateur. L'œuvre de Joseph Kessel a également inspiré plusieurs films, je pense entre autres à L'équipage, où l'on retrouvait Annabella, cette fois dans le rôle de Denise la coquette. Le livre de Paul Morand que j'ai entre les mains s'intitule « Air indien ». Ce voyageur, infatigable et parfois moins pressé qu'on ne l'a cru, me plaît. D'une part, à cause de ce style inimitable, chose vue, d'un œil scalpel, et d'autre part parce qu'il s'agit du témoignage éblouissant d'un homme proté, à la fois sociologue, ethnologue, géographe et historien. Léger, il paraît l'être. En vérité, ces livres fourmillent d'informations les meilleures. Le secret réside, vous en conviendrez, dans le cocktail, et Morand s'y connaît à merveille pour les préparer. Grâce à ses formules piquantes, à son enthousiasme de voyageur bien documenté, mon voyage s'annonce prometteur 60 ans après sa venue en Amérique du Sud. Il est évident que Morand y est allé. Sur les traces des héros de l'aéropostale, je découvre à mon tour, plongé en plein ciel, un morceau de continent qui grossit telle la lueur de l'aube sous la loupe du hublot. Morand, l'original écrit encore, un double gel antarctique et arctique termine l'Amérique, lui saisit les pieds et la tête. Sorte de Siegfried libéré du monde universitaire avec son œil d'aigle, il embrasse une bonne partie des Amériques. Même arrivant ici, il semble ne pas oublier la géographie canadienne. Il est curieux, sans pour autant vouloir exagérer certaines ressemblances, que le gel, les grands vents et Madame la langue française rapprochent l'Argentine et le Québec, deux pays en vérité très différents. Le Québec qui est le nord, qui est au nord de l'Amérique, et l'Argentine qui est tout au sud de l'Amérique, bien sûr du sud. Toutes les civilisations américaines ayant, paraît-il, adoré le soleil, aussi est-il normal que l'oiseau et son prolongement, l'avion, soient présents au cœur de la mythologie de ces contrées souvent sauvages. Reviennent naturellement en ma mémoire des photos de ces étonnantes poteries rituelles du grand Chimu où sont dessinés des hommes oiseaux. Et toujours l'œil éclair de Morand qui consacre des pages éblouissantes à quelques-unes des 2500 espèces d'oiseaux des Amériques, la Palomita Blanca de las Cordilleras, laquelle habite intensément le folklore de l'Amérique du Sud, renvoie à l'amour aérien des oiseaux que s'est célébré aux sympathiques rencontres un poète du Québec, et non des moindres, Pierre Morency. Grâce au cycle de la plume d'oiseaux, la boucle peut être bouclée, la parure devenant écriture. Aussi est-il émouvant d'essayer d'imaginer quelques instants comment se constituèrent ces civilisations de la plume, des Iroquois aux Apaches en passant par la floraison aztèque, dominée par la fameuse danse du serpent à plume. Si bien que pour interroger à ma façon ces civilisations de la plume en leurs multiples variétés, j'ai emprunté, plus de 60 ans après Paul Morand, non pas pour l'imiter, mais afin de rendre hommage à ceux qui œuvrent en faveur de la langue française et du dialogue des cultures, un avion moyen de transport unique abolissant les distances. Blotti au cœur de ce gros oiseau chantant, je grignote le ciel de ce nouveau continent en pensant au destin incertain de l'Amérique si l'avion n'avait pas été inventé. J'ai la possibilité de suivre pas à pas les découvertes de Paul Morand, puisque je peux lire ces livres pétillants d'intelligence. Certaines de ses notations me fascinent, celles notamment où il voit l'Argentine telle l'image d'une grande peau étendue au soleil. Peau saumonée de la mer, je suppose, avant d'apercevoir celle différemment colorée de la Pampa. Tandis que l'avion caresse le ciel et se dirige vers la capitale de ce grand pays, quelle surprise d'admirer enfin la force de l'estuaire platéen, large de 80 km. Je reprends avec gourmandise Air indien, donc ce livre, très beau livre de Paul Morand, pour y savourer quelques mots sur l'Empire argentin, fait pour les hommes, précise l'auteur, alors que l'Empire caraïbe a été créé par la nature et l'Empire inca a été engendré par les dieux, s'empresse-t-il d'ajouter. Je réalise que je serai bientôt sur le pas de la porte du plus grand garde-manger du monde et humerai sous peu, avant d'y goûter, les portions énormes servies dans les restaurants. Dommage que Rabelais n'ait point participé à l'aventure de ce pays. Il aurait adoré renifler ces rôtis immenses cuisants dans leur jus. Curieusement, pas un seul de mes interlocuteurs n'évoquera devant moi le nom de Rabelais. Et pourtant, je reste aujourd'hui persuadé que l'Argentine aurait passionnément inspiré cet écrivain prolifique né à la Devinière, près de Chinon en 1494. Mais vous me direz, il est facile de jongler avec l'histoire. Comme l'Empire argentin a été édifié, non pas pour des hommes, mais par des hommes, nuance importante, et non pas par des dieux, il me faut ici en profiter pour saluer au passage le courage et l'ardeur au travail des Français et parmi eux des Basques. Mais ne soyons pas chauvins et saluons aussi la venue des Allemands et des Italiens, plus nombreux que ne le furent les Espagnols, pourtant les premiers conquérants. Réalise-t-on un seul instant ce que les Argentins doivent à l'ingénieur français Charles Tellier, l'inventeur du frigorifique? Je ne le crois pas. Le plus surprenant, c'est de découvrir qu'entre la France et l'Argentine, une histoire d'amour a eu lieu et se prolonge, même si la plupart de nos concitoyens l'ignorent. On peut regretter que Paul Morand, personnage cosmopolite par excellence, contribue à accroître cette ignorance au sujet de l'émigration française. Dans les Amériques, lorsqu'il écrit avec le talent qu'on lui connaît dans « Air indien », quelques pages enlevées en imaginant que les Quakers aient débarqué à Buenos Aires plutôt qu'à New York et les Espagnols au Canada plutôt qu'au Mexique. Il est malheureux que les Français du Nouveau Monde semblent avoir déjà disparu de sa conscience. En tout cas, pas de la mienne, ni de celle de l'historien Jacques de Vancé, auteur d'un ouvrage monumental sur l'Amérique du Nord. Et notre prestidigitateur jouant avec les continents, d'ajouter « le Sud serait devenu le Nord » et inversement, « un seul pays serait resté identique à lui-même, l'Argentine, car tous ces Argentins sont des travailleurs acharnés. Est-ce vrai ?» Oui, si j'en crois d'autres lectures faites avant le départ qui m'ont appris que sur les quais du port de Buenos Aires, les chargements de viande ne cessent d'être embarqués sur les bateaux de commerce. Au bord du Rio de la Plata dominent, paraît-il, d'immenses silos à grains, cathédrales industrieuses n'ayant rien à voir avec d'autres cathédrales péruviennes cette fois, dressées vers le ciel afin d'essayer de faire oublier les massacres et l'horreur inspirées par l'Inquisition. Thème présent, pensez-y, dans Le flagellant de Séville, autre œuvre de mon compagnon de route, Paul Morand. Un premier tour de ville imaginaire, même hâtif, me permet de deviner, ancré en plein Buenos Aires, un morceau palpitant de Méditerranée égaré de l'autre côté de l'Atlantique. N'est-ce pas surprenant ? Avant d'aller sonner demain aux portes de mes relations argentines, je me glisse déjà tel un fantôme sur les pas de nombreux visiteurs jusque dans les ruelles du quartier de la Boca où résident des descendants de Génois, toujours prêts à boire des fiasques de Chianti à l'ombre des fromages testiculaires et d'autres délicatesses parmesanes pendues aux poutres des estaminets. À la Boca est né le tango. Danse de la ville, un tango tendre, sensuel et métissé d'italiens. Le tango parlant d'alou avec l'accent napolitain au son de l'accordéon allemand, confie toujours bien renseigné l'auteur d'Air indien. Certains parmi les meilleurs chanteurs furent des Français. L'un d'entre eux, Carlos Gardel, a connu le triomphe en exprimant cette copulation rythmée, belle image morandienne qui descend en ligne droite, elle aussi de la Méditerranée. Énigmatique Gardel, devenu héros national, après avoir brouillé tant de pistes, qui était-il ? Un voyou, un violent, ayant passé 6 ans de sa vie dans une prison d'Ushuaïa, avant de devenir célèbre, impossible de le savoir puisque son casier judiciaire a disparu. Quand est-il né ? On ne le sait pas exactement. Ce Français d'origine ou non, ce bâtard ou non, était un malin qui a su se servir à merveille du cinéma et de la radio. Celui que l'on considère comme le plus célèbre chanteur de tango meurt hélas dans un accident d'avion à Medellín le 24 juin 1935. Était-ce un attentat pour le faire disparaître ? Entre le poumon et le cœur, les médecins trouvèrent, paraît-il, une balle. Selon la légende, elle aurait été tirée par Ernesto Guevara Lynch, le père du Che. Allez savoir la vérité. Il nous reste le sourire énigmatique de Carlos Gardel et son extraordinaire capacité à choisir les mots de ses chansons nostalgiques. Toujours en proie à mon imagination prospectrice, je tourne le dos au quartier très touristique de la Boca, non exempt de charme, pour rendre visite tel le fantôme d'un château à vendre à Palermo, le 16e arrondissement portaigne, de la ville donc portaigne de la ville de Buenos Aires, lieu comble de richesses et de secrets que Morand trouve triste. Faut-il préciser que dans les années 1930, on ne batifolait pas avec les mœurs en Argentine. Quelques récits, et non des moindres, témoignent de cette époque sévérissime. Il suffit de se rappeler les débuts de la vie étonnante de la belle Victoria Ocampo, grande dame des lettres argentines, dont l'auteur d'Air indien cite le nom en passant pour comprendre le poids du puritanisme officiel de l'époque. En vérité, morale puritaine et sensibilité latine n'ont guère d'affinité. Le sang chaud des latins a en effet besoin d'une drogue qui s'appelle l'amour. Il me plaît d'essayer d'imaginer un instant un entretien majestueux qui n'a jamais dû avoir lieu entre Paul Morand et Victoria Ocampo. Grâce à elles, je retrouve l'esprit et la chair de la femme. Elles sont, m'a-t-on prévenu, belles à ravir en Argentine. Si à votre tour, vous voulez apprécier les qualités esthétiques de la gente féminine, il vous suffira, comme moi demain, de déambuler le long de l'avenue Florida, afin d'y retrouver l'auteur de L'homme pressé, très beau livre de Paul Morand, je le signale au passage, évoquant le fameux théâtre Colonne, rappelant le nom de Lily Pons, la plus grande chanteuse coloratour du monde en 1930, d'après les Américains, fait à méditer, cette Française d'origine, célèbre alors en Amérique, était presque inconnue en France. La joue droite appuyée contre le hublot, je poursuis ma lecture du livre de Morand. Ce dernier n'hésite pas à confier qu'il aime les femmes argentines parce que ce sont les plus femmes en Amérique, parce que leur éclat se rehausse de modestie latine. Pour être honnête, je vois difficilement notre auteur prendre aujourd'hui le thé aux côtés de Betty Friedan et de quelques autres déesses du même acabit gorgées de libertés américaines. J'aime la réserve des dames porteñas, l'attention passionnelle qu'elles portent aux choses de l'esprit, leur vie sans distraction, souvent secrète et recluse, comme celle des désenchantés d'Orient, leur volontaire effacement devant l'homme, leur effarouchement ravi quand on leur propose d'aller bavarder seul avec elles à l'heure du thé, ajoute-t-il. De toute évidence, Paul Morand n'est pas Sacha Guitry. Dommage que l'on sente si peu dans ses pages la présence parfumée de la courageuse Victoria Ocampo. Déjà à l'époque, n'en déplaise aux grands voyageurs, un certain nombre de femmes argentines se battaient non sans difficulté pour améliorer leurs conditions. Avant de s'envoler vers d'autres cieux, Morand décide heureusement d'aller tâter le pouls de la Pampa, cette vaste Flandre australe, royaume souverain du taureau, où les vaches sont des dames et où le bœuf ne travaille pas, contrairement à celui d'Europe, devenu, lui, une sorte de bœuf prolétaire. De Buenos Aires à Mendoza, pas un mur, pas un tertre, constate-t-il. Je me prends à vivement regretter que des cinéastes tels que Jean Vigo ou René Clair, ou encore Jean Renoir, ne soient pas venus filmer l'Argentine des années 30. Nous aurions aujourd'hui des témoignages percutants, des créations enlevées sur un univers ressemblant à l'Arche de Noé. C'est, ne l'oublions pas, au cœur de la Pampa, qu'habitent bon nombre de descendants des Basques, ce sont des colonisateurs de premier ordre, Pampa. Cher également à celui qui fut un prince des poètes, j'ai nommé là le délicieux Jules Supervielle. Et je cite de lui: je fais corps avec la Pampa qui ne connaît pas la mythologie. Je m'enfonce dans la plaine qui n'a pas d'histoire et tend de tous côtés sa peau dure de vache qui a couché dehors. Morand, toujours faussement pressé, prend le temps d'y rencontrer des membres des sociétés d'entraide de Navarre ou des Basses-Pyrénées. Des souvenirs précieux de visites effectuées à la Revue des Deux Mondes où le rédacteur en chef à l'époque, un certain monsieur Léon Boussard, dans les années 80, me parlait du Pays basque et du sang de ce peuple inassimilable qui rappelait le sang indien, me reviennent à l'esprit. L'Airbus descend à présent, doucement, ô beauté du mot douceur qui revient souvent dans Vol de nuit de Saint-Exupéry, vers la terre argentine qui sait si bien accueillir les visiteurs. Je découvrirai bientôt un nouveau monde, celui des francophiles argentins qui, entre Lasso et Pampa, entre la Boca et Palermo, entre le souvenir de Victoria Ocampo et celui de Roger Caillois, prennent un immense plaisir à vivre les joies de l'esprit à l'ombre des Andes et de cet air indien si magnifiquement présenté par Paul Morand. Comme 1492, année douloureuse et pleine d'enfantement, me semble à la fois lointaine et proche. Après un atterrissage impeccable, l'avion s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international de Buenos Aires.